accueillons la parole de Dieu. Revenons, mes chers amis, au point où nous nous sommes quittés cet avant-midi. Nous en étions dans la deuxième partie du schéma, au chapitre D, concernant la très grande importance du commandement nouveau de Jésus. Et en terminant, nous insistions sur le fait que lorsque l'on pratique le « aimons-nous les uns les autres » comme le demande Jésus, nous transmettons au monde deux grandes confirmations. La première, que Dieu, que Jésus est vraiment l'envoyé du Père. Et deuxièmement, que le Père nous aime, nous aussi, tout autant qu'il aime son Fils Jésus. Ça veut dire qu'en pratique, lorsque l'on n'accomplit pas ce commandement nouveau, on prive ceux qui sont sur notre route dans le monde de ces deux confirmations quotidiennes. Eh bien, vous le savez, comme moi, c'est parfois grave. Parce que les gens qui nous observent de l'extérieur sont loin souvent de percevoir en nous ce signe auquel on nous reconnaît pour les disciples du Christ. Le « aimons-nous les uns les autres de notre part à la vérité » n'éblouit pas encore le monde d'aujourd'hui. Il voit, hélas, au contraire, plus souvent des tensions, des divisions, des frictions, énormément de chamailleries. Et c'est également entre nous, à l'intérieur de l'Église, on voit encore trop rarement ce signe du « aimons-nous les uns les autres » être édifiant, se manifester sans équivoque et nous édifier, ou plutôt nous identifier comme d'authentiques disciples du Christ. Passons au dernier chapitre sur la nature et la mesure de la charité due au prochain. La nature de cette charité, c'est ceci, c'est une vertu surnaturelle, comme on le sait, qui nous fait aimer Dieu pour lui-même et par-dessus toute chose, et le prochain comme nous-mêmes à cause de Dieu. Donc, la charité se rapporte toujours à Dieu, à sa souveraine perfection, à son amabilité infinie, soit en tant qu'elle est en Dieu lui-même, soit en tant qu'elle se manifeste dans le prochain. La charité dont on parle a donc toujours Dieu pour principe, c'est-à-dire ligne de départ, pour motif et pour fin, ligne d'arrivée. Comment se mesure la charité? La mesure de la charité, c'est l'amour que nous nous devons à nous-mêmes. Nous aimons donc le prochain, non pas autant que nous, et d'un amour de parité, car nous devons toujours préférer notre salut à celui des autres, et au point de vue temporel, nous pouvons préférer notre vie à celle des autres, mais nous aimons le prochain d'un même genre d'amour, d'un amour de ressemblance qui, dit saint Augustin, souhaite au prochain les mêmes biens qu'on se souhaite à nous-mêmes. Et un amour qui lui procure, quand l'occasion s'en présente, les mêmes avantages qu'on se procurerait nous-mêmes. Un amour qui également lui épargne ce qu'il voudrait, lui, qu'on lui épargne. Donc le but de la charité est de procurer au prochain le bonheur éternel et de lui fournir, autant qu'il est en notre pouvoir, les moyens de parvenir à ce bonheur, au point que nous devrions même sacrifier notre vie si nous étions sûrs que par ce moyen, nous allions lui procurer le salut. Donc, le point de départ est cette expression qu'on retrouve dans le Lévitique chapitre 19 et verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que tout part d'abord d'une confiance en soi, un amour primitif de soi qui est normal, qui est sain et sans lequel rien n'est possible. C'est le signe d'une bonne santé morale et physique de pouvoir s'aimer soi-même. Les mélancoliques qui se détestent eux-mêmes, ne sont pas capables, à la vérité, de s'intéresser aux autres, car il leur manque cette intimité avec soi-même qui permet d'aimer les autres. Aussi, il peut être aussi grave de s'estimer trop peu que de s'estimer trop. C'est faire injure à Dieu qui nous a créés. En définitive, aimer l'autre comme soi-même, cela veut dire qu'on doit d'abord s'aimer soi-même, sinon l'amour des autres en souffrira, qu'on veut en second lieu aimer les autres comme on se sent ou comme on se sait aimé par Dieu, d'où l'importance d'ouvrir son RCA, son récepteur cœur-amour, et de capter le plus possible cet amour de Dieu. Et enfin, qu'on veut les aimer comme on voudrait qu'ils nous aiment eux aussi. D'où l'importance de savoir accueillir l'amour de Dieu qui passe par les autres. Passons maintenant à la troisième partie, l'arbre généalogique du « aimons-nous les uns les autres ». Nous verrons successivement le plan d'amour de Dieu, qui est au juste mon prochain, et les trois circuits de l'amour du prochain. Le plan d'amour de Dieu. Et je vous invite à prendre en main le schéma graphique A, intitulé « Le plan d'amour de Dieu ». Le point de départ de tout, mes chers amis, c'est ce que Saint Jean nous dit dans la première épître au chapitre 4, versets 7 et 8, « Dieu est amour ». Le but universel de Dieu, c'est sa gloire. Et comment trouver sa gloire? C'est par la louange. Et il l'a trouvée d'une façon incréée au cœur de la Sainte Trinité. Et à la vérité, Dieu a trouvé là toute la louange et la gloire qui lui suffisaient. Il n'avait pas besoin d'ajouter rien de plus. Il a décidé, toutefois, de partager cette louange de gloire dans son amour trinitaire, et il a procédé à la création. Au sein de la Trinité, il y a toujours ce triple élan, cet échange total d'amour entre les trois personnes divines. Dans la création, la louange se fait par une remontée vers Dieu, par des êtres qu'on appelle la création spirituelle, des anges, et des êtres constitués de corps et d'esprit comme nous, l'humanité. J'ouvre ici une parenthèse pour dire en passant que la Trinité est le modèle de tout amour, même humain. L'amour un, c'est-à-dire l'amour de soi, par soi et pour soi, on le sait, c'est un amour stérile et égoïste. L'amour deux, l'amour de soi en un autre seulement, est un amour qui est facilement inquiet, incomplet et jaloux. Et on voit l'inquiétude d'un couple, par exemple, qui voudrait avoir des enfants et qui n'en a pas. L'amour équilibré, c'est l'amour trois, comme dans le mariage, l'amour du mari et de la femme pour et vers un enfant ou des enfants. Il faut donc, dans l'amour humain, aimer l'autre par don de soi, mais vers un troisième terme. Et c'est d'ailleurs la seule façon pour un prêtre, pour un éducateur, pour un célibataire, d'équilibrer sa vie. Il peut aimer ses fidèles, ses ouailles, il peut aimer ses élèves, il peut aimer ses amis, ça fait amour deux, mais il doit toujours y avoir un troisième terme qui est Dieu, en l'occurrence, et alors le trépied indispensable existe et l'équilibre et la croissance de cet amour peut se réaliser. Revenons au tableau et nous voyons en haut son plan initial. Dieu, tout amour, est rempli de cet échange d'amour dans la Trinité qui est représenté là par le triangle, voulait constituer un univers, ce cercle, qui serait plein d'amour et plein de ses reflets et lui rendrait gloire. Un peu comme un artiste qui veut reproduire son génie à travers un tableau, une sculpture, une œuvre d'art. Il n'est pas plus artiste après avoir fait son tableau ou composé sa symphonie ou achevé sa sculpture qu'avant. Mais quiconque regarde son œuvre d'art peut, à travers le tableau, la sculpture ou la symphonie, retracer les qualités du maître. C'était le plan de Dieu, qu'à travers la création, l'univers, on puisse voir le génie du maître, qu'est Dieu, en y retrouvant tant d'amour, tant de paix, tant de joie. Et vous savez la suite des événements. Il y a eu d'abord la révolte des anges et celle des hommes qui a été suscitée sous la motion des anges révoltés. Et alors Satan a tourné sa fureur contre le plan de Dieu, donc contre la création. Et les offensives se sont multipliées, en commençant par le paradis terrestre, Il s'est attaqué au cheminement des patriarches, des prophètes. Il a tout fait pour détourner le peuple juif de l'attente de l'incarnation. Il s'est attaqué contre Jésus, contre l'Église, contre tout et tous. Au ciel, le succès a été assuré et consolidé. Donc, vous voyez que le triangle demeure intact sur les trois plans. Mais si l'on regarde le deuxième schéma, son plan est massacré par notre révolte. Dieu avait créé l'homme dans l'unité. Et il l'avait harmonisé avec toute la création et dans l'union avec lui. Les humains étaient dans l'union, l'amour, la vie, et il n'existait dans le plan initial de Dieu aucun mal. Par le péché originel, les humains ont désuni leur volonté de la volonté divine. Ils se sont coupés de Dieu, ils se sont désourcés, car Dieu est source de toute vie et amour. Et vous voyez que la ligne entre le triangle et l'univers, la ligne est interrompue. L'homme refuse la dépendance à Dieu. Dans le plan de Dieu, tout était à l'humanité. Mais l'humanité devait en faire un retour à Dieu. Et Dieu avait créé l'homme dans la liberté. Et au lieu de se contenter de la liberté, il a décidé de réclamer l'indépendance. C'est important, cette distinction entre la liberté et l'indépendance. La liberté, c'est la faculté d'accepter sa dépendance dans l'amour. Être libre, c'est choisir le meilleur moyen pour aller au bien. On va au bien. C'est un peu comme dans une usine, il n'y aura d'unité que si les ouvriers et tout le personnel sont assez libres pour accepter la volonté de ceux qui dirigent la production dans cette usine. Les conséquences de la chute originelle, donc qui est une désobéissance librement consentie, se sont servis de leur liberté pour s'opposer à Dieu, ça a été le refus de l'amour. Parce que Dieu leur offrait ce paradis dans l'amour. C'était le rejet du plan de Dieu sur l'humanité. Et l'unité entre le Créateur et la créature a été brisée. Immédiatement, trois désunités ont découlé de cette rupture dans le plan initial. Désunis de Dieu, qui est source de vie, la maladie et la mort ont commencé à sortir de terre. Désunis de Dieu qui est vérité, l'ignorance, l'erreur, le mensonge ont commencé à sortir de terre. Désunis de Dieu qui est la béatitude, la souffrance est apparue. Coupé de Dieu bonté, ça a été l'arrivée du mal. Coupé de Dieu Père, ça a été la perte de l'esprit filial, coupé de Dieu qui était la source du bien pour tout cet univers, on a perdu la grâce. Dieu est la source de la sainteté qui devait inonder ce plan initial. On est tombé dans la connaissance expérimentale du mal. Donc, première désunité, désunité avec Dieu. Désunis de Dieu. Les humains sont devenus désunis en eux-mêmes. Quand on lit dans le texte que Adam et Ève ont rougi d'eux-mêmes, c'est parce qu'il y avait déjà une désunion à l'intérieur de leur être, comme une dualité, une partie de leur être qui a honte de l'autre partie de leur être, qui en rougit. L'homme uni en lui-même ne peut rougir de lui-même. Donc la désunité est entrée chez Adam et Ève et dans toute l'humanité. Et l'être humain, à partir de ce jour, a commencé à connaître la dislocation, l'inquiétude, l'instabilité, d'où prolifération des remords, de l'anxiété, de la culpabilité, de la honte, du dégoût, du désespoir, accablement pouvant même conduire jusqu'au désir de se détruire, de se suicider. Et parfois même cette destruction intérieure, la désunité dans l'être, va même jusqu'à nous réduire en poussière, et il faudra des spécialistes pour tenter d'aider la personne à reconstituer son unité. Et la troisième conséquence, coupé de Dieu, divisé en nous, nous avons commencé à nous désunir entre nous. Et la faute originelle a entraîné une réaction à chaîne. Le désir d'amour noble devient souvent ignoble appétit de domination. La tentation du dehors et du dedans conduit l'être humain à perdre son paradis intérieur. Il a peur de lui. Il ne domine plus alors la création dont il devait être le roi. Il doit la contraindre et la forcer. Et l'histoire nous explique qu'après ça, toute la succession, ça a été d'abord Caïn qui a tué Abel, donc rupture de l'unité fraternelle. Ça a été Cam qui s'est révolté contre son père Noé, rupture de l'unité familiale. Les familles sont divisées. Ça a été la tour de Babel, la désunité des nations. Les guerres, les rivalités, les conflits, tout est à terre. Mais le mal de l'homme, contrairement à celui des anges, demeurait réparable. Mais avant de passer au troisième plan, jetez un coup d'œil sur le cercle qui représente l'univers dans ce plan massacré. Vous voyez là une prolifération de petites flèches dans tous les sens qui montrent que la désunité s'est emparée de la création. Vous voyez là ces trois taches noires qui montrent que les épreuves sortent de terre. Et c'est comme ça d'ailleurs que je préfère expliquer aux gens les épreuves. Parce que c'est difficile de dire qu'un Dieu bon envoie des épreuves. J'aime mieux montrer que c'est de notre faute. Comme on s'est coupé de Dieu, tout ça a été projeté sous nos yeux. Et vous voyez que ces épreuves débordent d'eux-mêmes, elles se multiplient. Passons au schéma C, son plan de restauration auquel il veut nous associer. Eh bien, les anges, quand ils se sont coupés de Dieu, ont été chassés pour l'éternité et condamnés. Satan, Lucifer et les mauvais anges, leur sort est jeté éternellement. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. ils avaient la liberté d'un choix, ils l'ont fait, c'est classé. Mais dans notre cas, Dieu nous offre par la rédemption le retour. Le Christ, précédé par Abraham, Moïse, se met en marche. Le peuple de Dieu tente tous les efforts de réunité et le Seigneur vient à notre rencontre. Le peuple de Dieu, avec Abraham, défend le monothéisme, c'est-à-dire commence à affirmer qu'il n'y a qu'un Dieu. D'Abraham sortent 12 tribus, puis vient plus tard Moïse, qui nous donnera la loi révélée sur le mont Sinaï. Et ce sera le désir, l'attente, puis finalement Jésus. Jésus, envoyé du Père, qui va ramener dans le monde l'amour. L'amour du Père et l'amour des frères. Et on voit là, dans le schéma, c'est ce pontage d'amour et le plan de restauration à travers nous et en nous. C'est la naissance de l'Église qui continue l'œuvre d'amour et de réunité. Face à l'action actuelle, au plan restauré actuel, il y a deux camps seulement. Les artisans et les tisserands d'amour-unité, donc qui en sont les ferments et les fervents, c'est le camp du Christ. Et on voit dans le dessin qu'il commence à rebâtir l'unité dans le monde. Mais c'est loin d'être achevé. Il y a un deuxième camp, ce que j'appelle celui des faiseurs de désunité. C'est-à-dire ceux et celles qui critiquent, manquent à la charité, divisent, rouspètent, opposent. Ou même, dans ce camp, ceux qui se contentent seulement de ne pas manquer à la charité, mais qui ne font absolument rien pour promouvoir la charité et l'unité. Donc, les abstentionnistes sont dans les armées de réserve du camp de la désunité. Pourquoi? Pour une simple explication. Quand il n'y a dans un appartement que 80% de lumière, il y a 20% de ténèbres. Quand il y a seulement les trois quarts d'un verre d'eau qui est rempli, il y a un quart vide. Alors, un chrétien qui se contente de mettre seulement 50% de lumière ou d'eau vive permet donc, au milieu où il est, d'avoir 50% de ténèbres ou d'eau polluée. Alors, on n'est pas chrétien seulement par abstention. On est chrétien lorsque l'on se met à la tâche quotidienne, à chaque instant, à chaque occasion, de tisser l'unité et de remettre dans le monde l'amour de Dieu, pour que soit restauré le plan initial. Donc, notre mission, c'est de poursuivre constamment, à 100%, l'œuvre de réunité voulu initialement par le Père, restauré par le Fils et sa rédemption, ce pontage d'amour sous l'action de l'Esprit. Voilà la mission de l'Église. Voilà le peuple de Dieu en marche, qui ne peut pas être composé de gens arrêtés. Au paradis terrestre, les diversités se seraient parfaitement harmonisées parce qu'elles se seraient épanouies uniquement dans le bien. Dans notre tragédie terrestre, les diversités sont souvent entachées de mal, d'où une difficulté plus grande pour les harmoniser. Mais dans le paradis céleste, qu'on peut déjà importer en formant des petits coins de paradis, c'est à la fois le summum de la diversité et le summum de l'unité. Passons maintenant au chapitre B et posons-nous la question : qui est au juste le prochain? La question qui est le prochain, à la vérité, est indissociable de la question qui est mon Dieu. Car il n'y a qu'une charité surnaturelle qui a pour objet à la fois Dieu et le prochain. Tout le mystère du prochain est livré par la révélation divine conjointement avec le mystère de Dieu. Cela n'apparaît pas immédiatement, car au début, on a eu tendance dans l'Ancien Testament à donner au terme prochain un sens plus philosophique et parfois limité. On dit « le prochain, c'est mon semblable. C'est lui que Dieu me commande d'aimer comme moi-même. » Or, cette interprétation déforme le sens du commandement divin. Dieu n'a pas commandé seulement d'aimer son semblable, mais il a commandé d'aimer son prochain. Et dans la bouche de Dieu, prochain n'a donc pas le sens usuel des hommes. Prochain a un sens nouveau et proprement révélé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, prochain voulait indiquer son frère de race, son voisin, son camarade, son compatriote intégré dans l'alliance du peuple de Dieu. C'était l'ancienne alliance, et donc le régime imparfait de la révélation. Mais Jésus nous a donné un sens nouveau, et il en a profité lorsqu'un légiste lui a posé la question à l'occasion de la parabole du bon samaritain. Luc 10 et 29. Qui est mon prochain? Ce n'est pas seulement une question superflue, insidieuse, diplomatique, mais c'est une question importante et de portée capitale, car elle permet à Jésus de révéler une extension nouvelle au mot prochain. Jésus précise qui est le prochain d'après sa doctrine, et pour y répondre, il ne répond pas par une définition académique, mais par une parabole, car il aime toujours procéder ainsi, concernant les affaires de Dieu pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors vous rappelez la parabole du bon samaritain. C'est une transposition saisissante, un rappel à peine voilé de l'oracle d'Ézéchiel. Ce que le Samaritain fait pour le blessé sur la route de Jéricho, alors qu'un prêtre, un légiste, tout le monde, un lévite était passé et avait filé leur route, le Samaritain lui s'arrête. Ce que le Samaritain a fait pour le blessé, Dieu l'a fait pour Israël sur toutes les routes de son histoire. Sa route d'errance, sa route d'exode, sa route d'exil. La parabole de l'amour de Dieu pour les siens est proposée à l'amour de l'homme pour son prochain. Quand il dit « Va et toi aussi, fais de même », le dernier verset, il demande non pas une imitation du héros qui a été le Samaritain, mais une imitation de Dieu lui-même. Et Jésus retourne la question en leur disant, « Qui est mon prochain ?» Et on lui répond, « Lequel de ces trois, et c'est la question de Jésus, plus longue que ça, verset 36, « Lequel de ces trois, dit-il au légiste, c'est montrer le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands. Et le légiste répondit, au verset 37, « Celui-là qui a pratiqué la miséricorde à son égard. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Donc, la phrase importante, c'est il s'est montré le prochain d'eux. Et cela rend alors transparent l'allusion à l'amour de Dieu. Car Dieu n'est pas notre égal, n'est pas notre semblable, mais Dieu s'est montré le prochain de son peuple. Dieu se fait, se rend par amour, le prochain de chacun de nous, de ceux qu'il veut sauver. Et Jésus est venu pour se faire le prochain des malades, des pécheurs, de tous sans exception. Donc, la définition chrétienne du prochain, le prochain se définit, se réalise par l'exercice d'une miséricorde. Toute notion du prochain en foi révélée tire donc son origine et son sens de l'attitude de Dieu s'approchant et se faisant le prochain de son peuple pour le sauver. Donc, pour moi, qui veux vivre dans ce peuple, le prochain ne se définit pas d'abord à partir d'un rapport d'origine ou de similitude, saisi au sein d'une situation donnée, abstraction faite du plan rédempteur, mais le prochain devient pour le chrétien et se définit comme un terme personnel d'un mouvement d'amour que je fais à l'imitation et en vertu de l'amour divin. En d'autres termes, le prochain n'est pas celui qui est proche, mais c'est celui dont je m'approche pour livrer sa marchandise à lui, son amour trinitaire. Donc, je dirais en boutade que aimer son prochain ou ses prochains, c'est faire partie du département de livraison du Seigneur, qui nous confie de livrer son amour aux autres. Comme je dis souvent en parlant de mon ministère, je suis un petit gars qui fait de la livraison pour son père. Il n'y a prochain donc que si quelqu'un s'approche d'un autre au nom de Dieu et comme Dieu. Est-ce que c'est assez clair? Cette motion, donc la définition du prochain, on n'y va pas parce que c'est un ami, parce que c'est une connaissance, c'est un parent, mais on y va parce que Dieu nous met dans le cœur d'aller vers cette personne qu'on n'a pas choisie, porter sa livraison d'amour. Comme Dieu est venu vers chacun de nous se faire notre prochain et vers l'ensemble de son peuple, est venu dans ses difficultés faire miséricorde et livrer son amour. Alors, nous arrêtons ici.